Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 22 d'Archéociné. Archéociné, le podcast qui déterre les pépites de grand écran. Avec nous, il y a Blood, comme toujours. Salut Blood, comment ça va?
Salut à tous, impeccable.
Musique d'intro de l'épisode 22. On va essayer de découvrir ce que c'est cette fois-ci. Allez, c'est parti. Peut-être, mais ça ressemble à l'aventure intérieure, un peu, la musique. Mais c'est pas ça. Il s'agit de Tron, donc le film réalisé par Steven Lisberger en 82. Film donc qui traite du monde de l'informatique, du jeu vidéo, la réalité virtuelle, intelligence artificielle, tout ça. On abordera tous ces thèmes. Et tiens, Blood, tu vas un petit peu nous rafraîchir la mémoire pour nous faire
pour
un
l'histoire.
Petit peu l'histoire de ce film-là, pour au cas où il y en a qui connaîtraient pas.
Ouais, alors c'est donc un concepteur de jeux vidéo, il s'appelle Flynn, et donc il s'est fait piquer ses jeux par son ex-employeur, et donc il cherche à récupérer des preuves comme quoi c'est lui qui a vraiment fait les jeux vidéo. Et donc avec l'aide d'un pote à lui, donc Alan, et de Laura, ils vont essayer de s'infiltrer donc dans le MCP, c'est le maître contrôleur principal. C'est un ordinateur avide de pouvoir, à l'intelligence artificielle surdéveloppée. Et donc quand il arrive à découvrir que Flynn cherche à s'infiltrer, il le téléporte dans le jeu carrément. Ouais. Et donc, heureusement, il va se faire aider par Tron, qui est donc un programme indépendant qui a été créé par Alan.
C'est ça. Parce que, on verra, on en discutera après au cours de cet épisode, de voir un peu comment il se retrouve à l'intérieur de l'ordinateur.
C'est un peu comme l'aventure intérieure. Presque.
Ouais, si on veut.
Ça fait penser un peu à ça quand même.
Ouais, Tron, donc réalisé par Steven Lisberger. On a un scénario de Steven Lisberger, d'après une histoire de Steven Lisberger. La musique, c'est Wendy Carlos. Qu'est-ce qu'on a? On a la conception de l'univers électronique. On a Sid Mead, Jean Giraud, Mobius, pour ceux qui connaissent CBD. On a à la photographie Bruce Logan, les costumes d'Eloise Jensen et Rosanna Norton.
Les effets visuels, j'aime bien aussi.
Ouais, Steven Lisberger. Effets spéciaux R.J. Spetter. La boîte de prod, c'est Walt Disney. On a un budget de 17 millions de dollars et durée du film 92 minutes. Ça fait dans les 1h32, quoi. Et puis donc, de 1982. Allez, on va attaquer tout de suite avec un petit extrait.
Devenez brutal, Sark. Brutal et inutilement sadique.
Très touché, maître contrôle.
Nous avons procédé au rapt de certains programmes militaires. Je peux vous procurer d'autres parties illicites. Intéressé?
Très intéressé. J'aimerais bien me mesurer à un de ces gaillards. Ça me changera un peu de cette bande de gestionnaires empâtés de foie que vous me jetez en pâture. De quelle branche des services armés?
Le Strategic Air Command.
Génial.
Eh oui, Parce que en fait, le MCP, hein, qui le maître contrôle principal, comme il est appelé dans le film en VF, il est avide de pouvoir et il veut s'approprier tous les programmes du monde quelque part pour devenir de plus en plus puissant et augmenter ainsi son pouvoir. Enfin, c'est vraiment une intelligence artificielle un peu machiavélique, si on peut dire. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui joue fait dis-nous qui joue dans ce
qui
film.
Fait quoi alors? Alors, nous avons Jeff Bridges, donc qui fait Kevin Flynn et Clou. Bruce Boxleitner, qui fait le pote de Flynn, donc il fait Alan Bradley et il fait aussi Tron. David Warner, qui fait le méchant Dillinger, Sark, et puis qui fait aussi donc le maître contrôle principal.
En VO.
Cindy Morgan, ouais, en VO, ouais, MCP. Et donc Cindy Morgan, qui fait donc Laura et Yori. Et Bernard Hughes, qui fait le docteur Walter Gibbs, et puis donc Dumont.
Ouais, en fait, ils ont des doubles rôles parce que, en fait, ils ont leur rôle
dans
la.
Un avatar. C'est pas vraiment un avatar.
Ouais, non, pas vraiment. En fait, ils ont leur rôle dans la vraie vie et ils ont le rôle de.
Dans le programme, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, chaque programme est incarné par quelqu'un sur qui on peut mettre un visage.
Ouais, voilà.
Voilà. Donc qui est Steven, tiens, Lisberger. Steven Lisberger, c'est un réalisateur américain. Il est né en 1951. Lui, il a débuté en réalisant et en produisant un film d'animation en 80 qui s'appelait Animaleptics. Et du coup, c'est carrément un échec cuisant en raison du boycott des Jeux Olympiques d'été à Moscou par les États-Unis et de nombreux pays. Donc en fait, son film est tombé à l'eau. Et il a proposé ensuite à Disney un projet, et Disney va l'accepter, et parce que Disney veulent se diversifier et produire des films de science-fiction. Et ce projet en question, c'est Tron. Et du coup, il va le faire la renommée de Steven Lisberger, mais Tron, ça va être quand même un demi-échec commercial, hein, faut dire. Et puis, par la suite, parce qu'il n'a pas fait grand-chose comme réalisation, hein, faut dire ce qu'il est. Du coup, il a été aussi le producteur de la suite de Tron, hein, Tron Héritage, en 2010, qui lui a été réalisé par Joseph Kosinski, toujours avec Jeff Bridges. Voilà, qui est Steven Lisberger. Donc, on a une... On a une petite histoire de pré-prod, Blaud. Qu'est-ce qu'on peut nous raconter sur la pré-prod?
Alors, donc, c'est le premier film donc qui présente des séquences retravaillées ou conçues par ordinateur, puis donc aussi de l'imagerie informatique de manière intensive. Et donc, c'est pas comme dans Monde Ouest. Ça, c'est un western science-fiction avec Yul Brynner. Mais puis aussi dans Star Wars. Et donc, ça a aussi concevoir donc un monde virtuel. Et donc, parmi les responsables de l'équipe des effets spéciaux, donc on compte les designers, artistes Sid Mead et Jean Giraud, tu l'avais dit, donc Mobius, et l'illustrateur Peter Lloyd. Donc, ils ont été supervisés par Harrison Ellenshaw et Richard Taylor. Et donc, il y a eu 4 sociétés pour faire les images de synthèse. Ouais. Donc, il y en a eu 2 qui étaient à Los Angeles. Et puis il y en avait deux autres à New York.
Tu peux nous dire comment elle s'appelle à tout hasard?
Alors, c'était un format triple I, je crois.
Ouais, une formation internationale INC, ouais.
RAA.
Ouais, Robert, Robert Abel et Associate.
Et puis les deux autres, donc c'était donc à New York, il y avait Digital Effects et Mathematics Application Group Incorporation. Oh, Incorporation, oui, sûrement.
Non, c'est pas sûrement, non. Et ouais, donc déjà 4 boîtes d'informatique pour un film, c'est pas mal quand même. C'est on est loin de ILM ou c'est Pixar ou tout ça qui ah, peut-être qu'après ils font sous-traiter des petites parties, mais là en tout cas on est en 80 et bah du coup c'est une première. Donc les scènes du monde virtuel, elles ont été tournées puis retravaillées à Burbank. Hein. Burbank, c'est les studios Disney qu'on a là-bas, hein, en Californie. Bon, faut se dire pour rappel qu'on est en 80, hein, donc la souris hein, de l'ordinateur n'est hein, pas encore vraiment démocratisée. Hein, donc elle a été, elle est sortie vraiment en 83 avec l'Apple Lisa, mais sinon avant ça, bah c'était, il n'y avait pas de souris, donc là, du coup, tout a été programmé bah, en ligne de commande, avec des ordinateurs dédiés, des logiciels spécifiques, et tout au clavier, en ligne de commande, quoi, mode texte. Ils ont fait également aussi appel à des supercalculateurs, comme des Cray. Donc, à l'époque, c'était des bêtes hein, les trucs ça calculait c'est sûr que comparé aujourd'hui voilà quoi mais à l'époque c'était encore les craies, ils étaient destinés encore à la recherche universitaire ou militaire hein. Donc là on est sur un ordinateur donc un super calculateur hein, Cray qui avait une capacité de 8 mégaoctets de mémoire vive et un coût de 7 millions de dollars. Et donc, pour Tron, chaque rendu d'image nécessitait 18 mégaoctets de mémoire, de sorte que même sur un Cray, les animateurs n'ont pu voir aucune image lors de leur travail. Puisque donc du coup, ils avaient tout fait en ligne de commande. Et pour chaque rendu d'image, ils devaient générer une ligne de balayage à la fois, ils ne pouvaient donc voir le résultat de leurs efforts que lorsque ces lignes de balayage donc étaient combinées au film. Donc c'était un peu loin de ce que on connaît maintenant quoi. Allez, on va s'écouter un petit extrait.
Demande accès au maître contrôle principal. Concepteur code 00 Dillinger, mot de passe principal.
Bonsoir monsieur Dillinger, merci d'être revenu aussi vite.
Pas de quoi, maître contrôle. Rien ne ressemble plus à un séminaire d'électronique qu'un autre séminaire. Quoi de neuf?
Votre jeune ami, le détective, il joue de nouveau les curieux.
Flynn?
Oui, ça avait le coup de patte Flynn.
C'est ce fichier qui excite son flair, sauriez-vous vous l'approprier?
C'est fait. Je l'ai mémorisé et il ignore dans quel circuit.
Il peut fort bien vous percer à jour.
Je le redoute aussi. J'ai localisé Flynn et je l'ai tenu à l'écart. Mais son astuce est exponentielle.
Il va falloir occulter tous les accès tant qu'on n'aura pas muselé ce Flynn, question de pure survie.
Il y a 68,71 chances que vous ayez raison.
Génial.
Fin de transmission.
Ouais, donc là, il s'adresse directement à l'IA, le MCP, en vocal. Et c'est l'IA qu'on entend parler. Donc, c'est vrai que à l'époque, ça faisait un petit peu fantasmer. Parce que si maintenant ça existe, toutes les interactions qu'on a avec Siri, Cortana,
ah oui, voilà.
Alexa, etc. Maintenant, on est en 80, ça existait même pas quoi. Donc voir ça dans un film, ça nous faisait un peu saliver. On continue
avec, Jeff
Bridges. Ah, vas-y, dis-nous un petit peu.
Donc, c'est un acteur, chanteur et producteur de cinéma américain. Donc, il est né en 49. Dès son adolescence, donc, Jeff apparaît avec son frère Beau dans le show de leur père Lloyd sur la chaîne de CBS, The Lloyd Bridges Show. C'était donc de 62 à 63. Et donc, il trouve son premier rôle majeur en 71 dans le film Noir et Blanc de Peter Bogdanovich, La Dernière Séance. Donc pour ce film-là, il avait eu une nomination donc pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. En 67 ans de carrière et près de 80 films à son actif, on peut donc le retrouver également dans Iron Man, donc, qui est sorti en 2008, avec bien sûr Robert Downey Jr. On le voit aussi dans True Grit, c'est un super western, ça, des frères Cohen, sorti en 2010, avec aussi dedans Matt Damon et Josh Brolin. On le voit aussi dans The Big Lebowski, aussi, toujours un film des frères Cohen, là, c'est en 98. Dans le film, il y a aussi John Goodman et Steve Buscemi. Donc, il y a Comancheria aussi, c'est un thriller de 2016. Dedans, il y a Chris Pine. Il est dans Le Canard d'Heure aussi, un film d'action de 74 avec Clint Eastwood. Et bien sûr, dans King Kong, un superbe film de 76, hein, donc film de John Guillermin avec Jessica Lange.
On a aussi Bruce Boxleitner. Donc lui, c'est un acteur et un écrivain de science-fiction américain. Il est né en 1950. Hein. Sa carrière a commencé en 1974 dans deux épisodes d'Hawaii Police d'État. Un film et deux séries l'ont fait connaître du grand public. Hein, donc Tron et le rôle d'agent secret dans Les Deux Font la Paire, et celui du capitaine John Sheridan aussi dans Babylon 5. Donc lui, il a fait majoritairement des séries télé. Hein. Il a 61 ans de carrière à son actif, on le retrouve lui dans Hawaii Police d'État, hein, qui a été dans les années 70, hein, entre 74 et 76, La Conquête de l'Ouest, Franck Chasseur de Fauves, Les Deux Font la Paire, Babylon 5, donc beaucoup de séries TV. Et qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? Ah oui, je reviens sur Jeff Bridges, donc en disant que il était dans le show de son père là, dans le Lloyd Bridges Show. Lloyd Bridges qu'on voit aussi dans un train sifflera trois fois.
Exact.
Et puis aussi dans Hot Shots et puis d'autres trucs quoi. Allez, on s'écoute.
Dans Blown Away. Dans Blown Away, aussi. Justement, ils font le père et le fils.
Ouais, c'est ça, c'est génial. Allez, on se tape un petit extrait.
Écoutez, je vais demander à votre mémoire de faire un petit effort. 3 ans en arrière, et Kevin Flynn, moi, bosse pour Encom Informatique dans les services du logiciel. C'est un type tellement brillant qu'il y retourne la nuit, qu'il se monte un fichier à mémoire privée et commence à écrire un programme de jeu vidéo qu'il vient d'inventer sous le nom de Space Paranoid.
C'est toi l'inventeur des Space Paranoid ?
Paranoid, Bombo, Matrice, Brigade Mondaine, j'en passe des meilleurs. J'étais à ça de créer ma propre entreprise, mon vieux. Mais, débarque un autre ingénieur en logiciel, pas très jeune ni très brillant, mais furieusement sournois. Ed Dillinger. Ah. Un soir, notre Flynn s'installe à son terminal pour pupitrer son fichier. Il a zéro, que dalle, le vide absolu. Réavançons de 3 mois, monsieur, dame. Dillinger, présente un Encom 5 jeux vidéo, s'il vous plaît. Qu'il a inventé. Cette ordure n'a même pas changé les noms. Alors du coup, ça lui fait un ascenseur pas possible. Il se fait une percée archimétéorique jusqu'à... Attendez, voir. Qu'est-ce qu'il est déjà? Il est
président, directeur général.
Il est PDG. Là, les jeunes, là, ils balancent 8 millions de pièces de 25 cents dans les machines paranoïdes. Pour moi, ceinture, à part l'argent de poche, je plane ici de temps à autre.
Mais je n'arrive pas à saisir pourquoi tu veux pénétrer le système. Mais parce que justement, quelque part, dans une de ces fameuses mémoires, il y a la preuve. Si je remonte assez loin, j'arrive là où tout est stocké. Mon mot de passe, les instructions de Dillinger pour détourner les données,
c'est
le grand chelem.
C'est déjà trop tard
quoi.
Maintenant. Dillinger a coupé toute possibilité d'accès au groupe 7.
Qu'est-ce que tu me racontes?
Dillinger le sait très bien ce que tu fabriques.
Tu crois? Non, c'est une vanne. Ah. Et ben alors, si ça en est là, il n'y a qu'à se croiser les bras. On tombe soit sur Dillinger, soit sur son MCP. Plus haut qu'eux, il n'y a personne.
Pas si mon programme Tron pouvait être branché. Ce serait un excellent coup de circuit. Si jamais ton fichier se trouvait là-dedans...
Non mais attends voir, si on a une entrée, moi j'arrive à bidouiller le groupe 6 et on accède.
Bien. En avant la musique.
Ouais, c'est un petit peu long comme extrait, mais au moins on a toute l'intrigue et tout part de là en fait. Ouais, c'est ouais. Là qu'ils vont vouloir aller récupérer donc les fichiers que Dillinger lui a piqués.
Aller sur place, donc, forcément.
Bah oui. On en était où? Attends, on va continuer. David Warner. Vas-y.
Donc, de son vrai nom, David Artesley Warner. Donc, il est né en 41. 53 ans de carrière. On peut le revoir dans Un nommé Cable Hogg. Je ne connais pas ce film. L'antre de la folie. Men in Black. La malédiction. C'était demain.
Oui, donc David Warner, C'était demain, c'est celui qui fait Jacques l'Éventreur. Cindy Morgan, donc elle née Cynthia Ann Sikorski en 1954. C'est une actrice et productrice américaine. Elle n'a pas fait tellement de films que ça, 15 ans de carrière. On la retrouve dans Frank Chasseur de Fauves. Tiens, c'est bizarre, elle a joué aussi avec Bruce Boxleitner. Et Falcon Crest, Barnard Hughes, donc lui c'est un acteur américain, il est né en 1915, il est mort en 2006. On peut le retrouver dans les films comme Macadam Cowboy et Sister Act 2. Voilà pour les acteurs principaux. Après c'est des acteurs secondaires après. Sinon, après, pour vraiment maintenant rentrer dans le film, hein, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais c'est vrai que on retrouve pas mal la patte de Mobius. Hein, à la base, c'est un grand illustrateur qui nous a malheureusement quitté, Jean Giraud, et il a travaillé donc sur des dessins conceptuels et des storyboards du film. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les mondes une fois qu'ils sont dans l'univers virtuel, ils sont, on retrouve vraiment ce qui fait en BD quoi. Les vaisseaux, tout ça, c'est vraiment du Mobius quoi. Allez, on va poursuivre. Avant de poursuivre dans un peu plus profondément dans le film. On va s'écouter un petit extrait.
Halte !
Dumont !
Je ne supporte pas toute cette agitation. Que voulez-vous ?
Je viens communiquer avec mon concepteur, c'est tout.
J'admets la proposition, mais elle reste difficile dans le meilleur des cas, car il pourrait m'éradiquer pour avoir laissé quelqu'un entrer ici. Il déteste cette tour. Il l'occulterait s'ils en avaient l'audace. S'ils me laissent en vie, c'est au cas où l'un d'eux manifesterait le désir de traiter avec l'autre monde de temps en temps.
Démon !
Mon concepteur a des informations qui rendraient ou qui pourraient libérer ce système. Non, sérieusement, je sais que des programmes seraient ravis d'utiliser vos services. Et le MCP ne serait plus sur votre dos.
Quand on a appartenu au système aussi longtemps que moi, on a reçu maintes promesses et maintes assurances. Et on a vu maints projets courageux.
Dumont, je vous en prie. Les gardes se rapprochent.
Les voilà, avec le gardien.
Très bien, Yuri. Très bien. Et qui est votre concepteur, programme ?
Alan 1. Il me lance un appel. Pourrais-je passer ?
Tout ce qui est visible doit se dépasser et s'étendre dans le royaume de l'invisible. Vous pouvez passer, mon ami.
Ouais. En fait, c'est un moyen imagé de comment un programme va communiquer avec son concepteur humain, quoi. C'est juste ça. On verra un peu plus loin dans les... Ce que moi, ce que j'ai compris du film, quoi. Oui, Tron, pour revenir sur le sujet, Tron, c'est vraiment clairement un univers de gamer, hein. Et d'ailleurs, il y a le jeu d'arcade Tron, hein, ce fut un des premiers à symboliser la synergie entre l'industrie du cinéma et celle des jeux vidéo. Et dans les premières déclinaisons de licences de films en jeu. C'est vrai qu'avant ça se faisait pas trop, et maintenant Il y a eu plusieurs jeux qui se sont retrouvés maintenant en film ou inversement. Hein, si tu prends, je sais pas moi, World War Z, maintenant c'est un jeu. On a eu Assassin's Creed aussi en film. On a eu World of Warcraft en film.
Oui, Tomb Raider.
Ouais, bah oui. L'autre avec les zombies, là. Ah, mince. Enfin, bref. Pas World War Z, hein, mais l'autre, là. Et sinon, bah, pour parler un petit peu technique, donc c'est vrai que c'était un film déjà avant-gardiste à bien des égards, hein. Et pourtant le film contient moins d'images de synthèse générées par ordinateur qu'on pourrait le penser, et seulement 15 à 20 minutes d'animation de ce type furent véritablement utilisées. Bon, ça c'est les dires d'Harrison Ellen Shaw, hein, qui est le superviseur, avec Richard Taylor, des effets visuels. Si l'animation par ordinateur fut bien utilisée pour certaines scènes, ce n'était en revanche techniquement pas possible de filmer en même temps à la fois les acteurs et l'animation. Donc les scènes live furent combinées avec des dessins réalisés à la main. Et qu'est-ce qu'on peut préciser aussi, que le laser bay d'Uncom dans le film, c'est pas un décor. C'était vraiment en effet un laser utilisé à l'époque par le Lawrence Livermore National Laboratory pour ses recherches sur la fusion nucléaire. Donc ils ont ouais. Et pareil, les bureaux cabines des programmeurs d'Uncom là, c'est vraiment ceux des programmeurs du Walt Disney Company's Information Technology Group, et qui a été un peu décoré de manière à donner l'impression d'être plus vaste. D'ailleurs, ça se voit un petit peu, mais c'est vraiment les bureaux, les vrais bureaux des programmeurs de chez Disney. Qu'est-ce qu'on a aussi, par rapport au nom du film.
Ouais, le nom donc Tron, ça vient de électronique.
Ouais. Le TRON d'électronique, ouais. Et puis le MCP.
Ouais, donc le sigle maître contrôle principal, donc en français, et de master control program, donc en anglais. Il y a aussi master control program, c'est aussi le nom d'un système d'exploitation réel, donc le Burroughs MCP, donc qui fonctionnait sur Burroughs Large System. C'était un des grands mainframes de la compagnie Burroughs Corporation.
Ouais, mainframe IBM aussi, c'est les spécialistes de ça. Mainframe, c'est des gros centraux informatiques pour faire des traitements de masse. Et puis on a aussi des Easter eggs, hein.
C'est un peu comme des clins d'œil, ça, si on peut dire.
Ouais, c'est ça. Et c'est des références cachées en français, si on peut,
ouais,
on peut dire. Sur le dans le bureau d'Alan Bradley, il y a une affiche où on peut lire les mots Gort Klaatu Barada Nikto.
Et ouais,
C'est en référence à la formule qu'utilise Klaatu, l'alien du film Le jour où la Terre s'arrêta, de 1951, réalisé par Robert Wise. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi sur le... Ah oui, sur un des murs lumineux de la salle de surveillance de Sark, où il donne ses ordres, quand il dialogue avec le MCP, on voit un petit Pac-Man qui clignote.
Ah, et... Là, par contre, j'ai pas fait gaffe. Je savais pourtant qu'il y avait le Pac-Man, mais à aucun moment j'ai réussi à le voir.
Ouais. Et puis.
Il faudra que je le revoie.
Bah, je vais donner les temps pour les temps du film pour aller voir ces trucs-là ou les repérer. Et puis on a même aussi lors de la scène du voilier solaire, on peut apercevoir une tête de Mickey Mouse au sol.
Et donc, là, pareil, j'ai rien vu.
Bah, tout ça, si on veut le voir, donc l'affiche du bureau d'Alan, c'est à la 27e minute, 27 minutes 11 exactement. Le truc du Pac-Man, c'est à 45:30. Et le Mickey Mouse, ça a 1h12:29. Voilà. Donc ça, c'est...
Alors, peut-être que Pac-Man et Mickey, c'est peut-être un peu discret, je sais pas. Hein. Par contre, la phrase, on la voit bien quand c'est au bureau, dans le bureau.
C'est pas du tout discret, non. C'est, ça se voit bien.
Ah, ok.
Donc voilà, les timers, si on veut aller voir, tu reprends le film, tu vas à ces timers-là et tu verras. Mais ça se voit, non, c'est pas vraiment caché. Bah,
si c'est flagrant, c'est vraiment que j'ai loupé le truc.
Bah ouais. Et sinon, toi, alors donc, maintenant, on va aborder la dernière partie. Qu'est-ce que tu as compris du film et comment tu l'as trouvé ?
Alors, c'était déjà la deuxième fois que je le voyais seulement. Et j'ai bien aimé le film. Après, c'est sûr que comme ça reprend des trucs de jeux vidéo, forcément, tout de suite, t'es un peu plus plongé dedans, malgré que ça soit un film de 82. Les effets spéciaux sont pas mal faits pour l'époque. L'histoire est bien. Après, quand j'ai regardé le film, je me suis pas pris plus la tête que ça, à part le fait que lui se retrouve dans le programme. Ça fait un peu comme si c'était toi, tu es en train de jouer, puis si tu te retrouvais dans le jeu, par exemple, puis que tu serais coincé, faut bien pouvoir en ressortir. Mais là, enfin, c'est pas ça. Mais...
Si.
Comment ?
Si, c'est ça.
Donc, faudra que je le revoie encore, alors.
Parce que quand il se fait désintégrer par le laser, à ton avis, il devient quoi ?
Il devient microscopique, et puis il se retrouve dans le jeu.
Oui.
Enfin, dans le programme.
Donc.
Après, il faut bien qu'il ressorte.
Oui.
Donc, il faut bien qu'il puisse trouver comment ressortir.
Oui, mais comme il est développeur, après, c'est une fois que on a bien vu, une fois
c'est,
que
c'est à la fin dès qu'il a réussi à mettre le disque, paf, ça y est, il ressort comme ça, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est pour moi, c'est comment dire, c'est une illustration. Un peu fantasmé de ce qu'on pourrait imaginer tel que ça pourrait se passer dans un ordinateur à la place d'avoir au sein des circuits électroniques, des puces de silicium, des processeurs et des mémoires, etc. On pourrait s'imaginer tel que par exemple on a dans Toy Story des jouets, ils prennent vie, etc. Tu t'imagines qu'à l'intérieur de ton ordinateur, les programmes...
Oui, comme là, il y a un personnage, c'est RAM et l'autre, c'est ROM.
Les programmes, ils sont incarnés par quelqu'un qui a des traits humains et qu'à l'intérieur, il interagit, il dialogue avec d'autres programmes ou les contrôles de l'ordinateur, etc., etc. C'est juste un univers imaginaire tel qu'on pourrait se le représenter d'un fonctionnement interne d'un ordinateur.
Genre, salut Skype, moi c'est Spotify.
Ah, c'est ça, en gros. Exactement ça. Et donc après, du coup, cet univers-là, un peu comme une réalité virtuelle, est régi, par le MCP, c'est lui un petit peu le qui a le droit de vie et de mort sur tout dans son architecture. Et lui, il a soif de pouvoir il veut de s'approprier de plus en plus de programmes. C'est pour ça que les programmes, il les fait jouer, mais contre Sark. Mais à chaque fois, forcément, ils vont perdre. C'est Sark qui va gagner. Et du coup, il s'approprie les connaissances du programme, le programme n'existant plus. Mais Finn, lui, commençant à vouloir un peu trop farfouiller pour récupérer les programmes dont il est l'auteur, lui, il se retrouve à un moment donné sur un terminal, mais il n'a pas vu qu'il y avait le laser.
Le laser.
Qui est là pour des tests de dématérialisation et comment dire, pour rematérialiser l'objet en 3D dans un programme informatique. Hein, ça, c'est un truc uniquement de recherche. Mais le MCP en prend contrôle, désintègre Flynn et le réincarne à l'intérieur de l'ordinateur. Et c'est pour ça que, quelque part, c'est le seul à ne pas être ni un programme, ni quoi que ce soit. C'est vraiment quelqu'un qui vient de notre monde. Et mais après, c'est pareil, hein, tout ça, ça, pour moi, ça s'est passé que en quelques nanosecondes. Hein. Pour moi,
ça fait comme dans quel film?
Tout ce qui se passe à l'intérieur là, ça se passe en un claquement de doigts. C'est-à-dire que si on avait été témoin de sa dématérialisation, instantanément derrière, il se serait rematérialisé.
Parce que possible, hein.
Ça se passe c'est même ça, parce qu'à un moment donné, dans un dialogue, je sais plus, il dit oui, ça fait tant de nanosecondes que j'attends. Pour moi, tout ce qu'on est en train de voir quand ils sont dans cet univers virtuel, ça se passe en quelques nanosecondes seulement. Voilà vraiment ce que c'est l'histoire de ce film-là. Alors après, derrière, on a toutes les concepts d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, de jeux vidéo, d'informatique, tout ce que les geeks aiment, quoi. Mais c'est pour ça que ça parle à une certaine communauté. Et moi, c'est un film que j'adore. C'est vrai que quand je l'ai vu, j'avais 8-10 ans, j'avais pas... Non, attends, ouais, il est sorti en 82.
On l'a peut-être vu en 83.
J'avais pas encore 10 ans.
Je l'avais pas trop regardé, mais bon.
J'avais pas encore encore tout à fait 10 ans, et c'est vrai que... t'as pas assez de recul à cet âge-là, et bon, tu vois, d'un seul coup, ça se passe à l'intérieur... D'un seul coup, tu revois ça, le même personnage qui est à l'extérieur, et tu comprends pas pourquoi. Et c'est pareil, même Tron, Tron, et la même tête qu'Alan, et tu comprends pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce que les programmes, ils prennent le visage de leur concepteur. C'est tout. Par exemple, Sark, il était, comment dire? C'était un espèce de programme, c'était Dillinger derrière. Bon, le MCP, par contre, c'est le MCP. Mais donc derrière, on a tous ces concepts-là. Et puis même, quand on le voit bien, toutes les intrusions qu'essaye de faire Flynn en hackant le réseau et le système, on voit que c'est paré par le MCP. Donc c'est un petit peu ce qui se passe maintenant avec certains programmes évolués qui arrivent à parer des intrusions et réseaux et systèmes. Non, bon, après c'est vrai que le design, on voit que c'est un peu vieilli, c'est sûr. Ah, c'est pas
ça passe super bien quand même.
C'est pas du Tron Legacy, mais après moi j'aime. Donc voilà, même l'histoire et tout ça. Alors c'est vrai que Disney, bon, le dernier épisode qu'on avait fait sur 20 milieux sous les mers, c'était aussi Disney. Et là, bah en fait, Disney, il me semble que il voulait quand même toucher un plus grand public en faisant des films. Hein, déjà à l'époque, il voulait un peu se démarquer des dessins animés. Et ils avaient fait 20 milieux sous les mers. Après, ils avaient fait Trou Noir. Trou Noir, j'arrive pas à le trouver en Blu-ray. Je l'avais vu dans les années 80 aussi. Ça remonte. Il est jamais repassé, je crois. Faudrait essayer de le trouver quelque part. Ils avaient fait Trou Noir, c'était un super échec. Mais après, ils ont persévéré donc avec Tron. Et puis après, ils ont continué sur leur lancée. Et puis ils sont devenus ce qu'ils sont maintenant avec tout ce qui est Marvel, Star Wars et compagnie. Mais ouais, voilà, donc c'est du... Moi, je fais la part des choses. Disney, c'est la société peut-être prod, mais c'est pas pour moi ce qui va faire que c'est un mauvais film ou un bon film. Certains en veulent à Disney, mais pour moi, c'est pas parce qu'un film est produit par Disney que je vais pas avoir envie de le regarder, quoi. Et là, pour le coup, c'est vrai que non, Tron, il est pas mal. Jeff Bridges, il joue bien, et après, quand on l'a retrouvé dans d'autres films, c'est un acteur que j'aime. Ouais, voilà, c'est... L'histoire est sympa. Il y a tout un univers derrière à comprendre. La patte graphique de Mobius, c'est génial. Ouais, enfin, quand on est gamer comme moi, geek comme moi, qu'on aime le cinéma, on a tout un peu là-dedans. C'est comme Ready Player One, quoi. C'est génial.
Ouais, voilà.
Voilà ce que j'avais à dire. Écoute, je pense que on a bouclé.
La boucle est bouclée, ouais.
Et oui. Alors, on va se quitter avec les génériques de fin. Je dis les parce que en fait, c'était parfois dans les films, il y a un générique. Et puis un deuxième au final. Alors que les films qu'on a fait jusqu'à maintenant, il y avait un générique, point. C'était les films qui... C'était l'époque où on commençait à avoir plusieurs musiques pour le générique de fin. Donc voilà. Et puis, vous pouvez nous retrouver, hein, comme d'habitude, un petit peu partout, sur les flux RSS de votre application de podcast, sur le blog directement aussi, où vous pouvez laisser des commentaires, et puis vous verrez des captures d'images que j'ai faites du film, et puis aussi Spotify, Deezer, etc. Et puis toujours Patreon et PayPal. Bon, il n'y a toujours pas de sous, qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave, ça arrivera peut-être un jour. Au moins un euro.
D'un coup, bim,
un euro.
Quelqu'un qui gagne à l'euro million et paf, ouais. 100 000 euros.
Non, un euro.
Euro, ouais.
Bon, sur ce, on vous dit à bientôt pour l'épisode 23, du coup, ce sera
23, ouais. On verra si c'est encore à Disney ou pas. Suspense.
Non, je pense pas. Là, c'était le hasard. J'avais envie de faire Tron.
De toute façon, peu importe que ça soit Disney.
Et c'était le hasard que ça fasse de Disney de suite, mais bon.
Ouais,
ok. Bah écoute, alors à très bientôt.
Ah ouais, et bon film à tous.
Yes, ciao.
Salut.